Bon matin tout le monde. On continue aujourd'hui notre série de l'été intitulée « Jésus et moi » dans laquelle on réfléchit sur notre relation avec Jésus. On a vu l'importance de recevoir l'amour passionné de Jésus, d'apprendre à lui faire pleinement confiance. Et la semaine passée, on a vu qu'est-ce que ça signifie d'aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. Et aujourd'hui, on continue à réfléchir sur cette relation avec Jésus. Et on va voir comment Jésus fait de nous ses amis. Et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça change dans notre relation avec lui, avec les autres autour de nous. Et je vous invite à tourner dans Jean 15, à partir du verset 12. Jean chapitre 15, verset 12 à 15. Et moi, je vais lire dans la version du Semeur pour ce verset-là. Ça nous dit, Jésus parle et il dit, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. Pour bien comprendre ce texte, il faut premièrement comprendre le contexte dans lequel Jésus dit ces choses. On est dans la dernière soirée avant la crucifixion. Un peu plus tôt, Jésus et ses disciples se sont réunis dans la chambre haute. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a partagé le pain et le vin avec ses disciples, comme on a fait ce matin. Et Jésus, sachant ce qui s'en vient, donne ses dernières instructions à ses disciples. Donc, les versets 13 à 17 de Jean, c'est Jésus qui dit les dernières choses, les choses les plus importantes. Il y a une partie qui donne dans la chambre haute, puis si on lit, on se rend compte, à la fin du verset 14, il dit « Venez! » Puis là, il marche, puis en marchant, il continue de leur enseigner. À un moment donné, il va voir une vigne et il va leur parler « Ah, je suis le cep et vous êtes attachés à moi. » Et Jésus marche et il leur donne les dernières instructions. Il leur partage ce qui est le plus important. Ce qu'il désire qu'ils se souviennent après sa mort. Si vous êtes intéressé, je vous invite à lire Jean 13 à 17, si vous voulez creuser un peu plus loin, d'en voir qu'est-ce que Jésus partage à ses disciples. Mais c'est dans ce contexte que Jésus partage ce qu'on vient de lire dans Jean 15, versets 12 à 15. Et on va regarder plus précisément. Verset 12, Jésus dit, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Mon commandement. Jésus partage ici ce qui est au cœur de nos relations les uns avec les autres, l'amour. Ce qui doit motiver nos pensées, notre attitude, nos comportements, nos actions, l'amour. On ne devrait pas être motivé par la crainte, par la culpabilité, par le désir d'en avoir plus, par le désir d'être meilleur, par le désir d'avoir des récompenses, de se sentir bien. Notre vraie motivation pour Jésus, c'est l'amour. Ce qui devrait motiver tout ce que je fais, c'est l'amour. L'apôtre Paul va même aller plus loin, il va dire que sans l'amour, tout le reste ne sert à rien. Dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, Paul écrit, il dit, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Paul dit, je peux obéir à tous les commandements, je peux faire toutes les bonnes œuvres inimaginables, je peux avoir tous les dons spirituels, mais si je n'ai pas l'amour, je manque le commandement qui résume tous les autres. Je manque l'essentiel. Tout ce que je fais, c'est du vent. Ça revient au verset qu'on a lu la semaine dernière dans Matthieu 22, verset 36, où Jésus dit, « Maître, Quelqu'un demande à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est la raison pour laquelle on est envoyé dans le monde, pour partager l'amour de Dieu et démontrer cet amour en aimant les autres. Jésus commence en disant, « Voici ce que je vous appelle à faire. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. » Puis là, il pourrait s'arrêter là. Puis dire, « Bon, ben c'est ça, allez-y. » Et faut juste avoir vécu pas longtemps pour savoir que s'aimer les uns les autres, c'est pas si facile que ça. C'est facile tant que les autres sont silencieux. Là, oh! Mais heureusement, Jésus ne s'arrête pas là. Il ne fait pas juste nous dire de s'aimer les uns les autres. Il nous démontre par son exemple ce que c'est d'aimer. Hein, il devient l'exemple ultime de l'amour parfait. Au verset 13 de Jean 15, Jésus dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. » Et n'oubliez pas, Jésus dit ça, et il sait, lui, où il s'en va. Il sait que dans quelques heures, il va littéralement donner sa vie. Il va être à la croix. Et Jésus dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que ça. » Ce qui le motive à marcher, à continuer, c'est cet amour-là. Cet amour-là qu'il a pour chacun d'entre nous. Hein, Jésus nous dit d'aimer comme il a aimé. Et il nous dit, c'est quoi? Il dit, je vais vous montrer l'exemple ultime de l'amour. Je vais donner ma vie pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on est tous appelés à mourir pour les autres. Mais on est quand même tous appelés à donner notre vie, à donner qui nous sommes, à donner de notre temps pour les autres. À ne pas vivre pour moi, mais à vivre pour que les autres ressentent l'amour de Dieu. Jésus a tout sacrifié par amour pour nous. Il a quitté la gloire céleste. Il a choisi de venir sur terre en tant qu'être humain. Il a vécu la souffrance, la tentation, l'angoisse, l'abandon, la trahison. Il est mort injustement à la croix. Tout ça par amour pour nous. Tout ça pour prendre notre place, pour payer le prix de notre désobéissance, de notre péché, de notre rébellion. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que Jésus ne fait pas que donner sa vie pour ses amis. Jésus fait de nous ses amis. Parce que la Bible enseigne qu'on était, alors que Jésus est mort pour nous, on était encore ses ennemis. On était en rébellion contre lui. Il déclare, il dit, « Vous êtes mes amis. » Romains 5, 10, Paul en écrit et dit, « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » La Bible enseigne qu'avant, nous étions ennemis de Dieu. Hein, on refusait de l'obéir, on était en rébellion contre Dieu, et donc on était ses ennemis. Mais Jésus, déjà là, il dit, « Je meurs, je donne ma vie pour mes amis. » Il nous déclare ses amis. Et dans l'Ancien Testament, il y a seulement deux personnes qui ont été appelées « amis de Dieu ». Dans tout l'Ancien Testament, il y a seulement Abraham et Moïse. On le voit dans Ésaïe 41:8, où c'est écrit, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur, Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. » Et dans Exode 33:11, ça nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et dans les deux cas, on a des personnes ici à qui Dieu se révèle ce qu'il veut faire, à qui Dieu partage Hein? Dieu parle à Moïse comme un ami. Dieu parle avec Abraham, il va lui dire ce qu'il veut faire. Mais Jésus arrive avec une nouvelle réalité, hein? Un nouveau paradigme. On est maintenant tous, on peut maintenant tous être déclarés amis de Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. En lui et par lui, on est maintenant amis de Dieu. Jésus nous appelle ses amis. On était ses ennemis, mais il déclare que maintenant, vous êtes mes amis. On est réconciliés avec Dieu, et c'est pour ses amis que Jésus donne sa vie. Si vous avez l'impression ce matin que vous êtes loin de Dieu, que vous dites, ah, Dieu ne peut pas m'aimer, mais Jésus dit, tu es mon ami. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que j'ai fait à la croix. Dans le verset 14, hein, le verset 14, vous avez vu tantôt, il y avait des petits points parce qu'il continue ce verset-là. Verset que Jean 15, verset 14 dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Puis là, on fait, « Hein? Il y a des conditions? » Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir, « Hey, je vais accepter que tu sois mon ami si tu me donnes ta Super Nintendo. » Vieille référence, on va être plus moderne, ta PS5. Il y a des ados aujourd'hui. Super Nintendo, c'est il y a 30 ans, désolé. On aurait fait, « Hey, non, j'ai pas besoin d'un ami comme ça. Hein, un ami est supposé m'apporter quelque chose, pas l'inverse. » On ne s'attend pas à des conditions pour être ami. C'est très primaire, ça, c'est très petits-enfants. Mais il y a deux manières de lire le « si » de ce verset-là. On peut y voir une condition, quelque chose qui précède ou qui cause un effet. Par exemple, si vous êtes bon au hockey, une équipe de la Ligue nationale va vouloir vous recruter. Ou si vous lisez beaucoup, vous allez avoir plus de facilité en français. Hein, il y a le « si » et « avant » qui s'en vient. Dans cette interprétation-là, l'obéissance vient avant l'amitié et garantit l'amitié. Si vous faites ce que je commande, vous allez pouvoir être mes amis. Et tant que vous faites ce que je commande, vous allez demeurer mes amis. Et c'est souvent comme ça qu'on lit ce texte-là. Et le problème, c'est que ça crée beaucoup d'anxiété, ça devient de l'inquiétude, de oh, « Est-ce que je suis encore en train de faire ce qu'il commande? Est-ce que je suis encore son ami? » Et ça crée une angoisse en tant que chrétien de « Je dois faire plein de choses pour que Jésus demeure mon ami. » Parce qu'on sait qu'on ne parvient pas à obéir parfaitement. Et donc, on se questionne constamment sur notre relation avec Jésus, sur notre statut. Est-ce que je suis encore son ami? Mais il y a une deuxième lecture possible. En français, le « si » peut être aussi l'effet de quelque chose ou ce qui confirme la cause. Je vous donne quelques exemples et je remercie ChatGPT pour ces exemples. On donne les ressources à qui? Je lui ai dit, donne-moi des exemples de si ou que c'est un effet de quelque chose. Exact. Si les feuilles sont tombées, l'automne est arrivé. Hein? Les feuilles ne font pas que l'automne arrive. Les feuilles sont la confirmation que l'automne est arrivé, les feuilles qui tombent. Si elle connaît la réponse, c'est qu'elle a étudié. Si son front est chaud, c'est sûrement de la fièvre. Hein, le front chaud ne fait pas que tu as la fièvre. Le front chaud démontre que tu as de la fièvre. Si la plante est fanée, c'est qu'elle manque d'eau. S'il me parle comme ça, ben c'est qu'il me connaît bien. Et vous voyez ici, dans une lecture, notre obéissance est une preuve, une confirmation que nous sommes ses amis. Que le fait qu'il a donné sa vie pour nous a eu un effet dans nos vies. On n'est pas ses amis parce qu'on lui obéit, mais on est capable d'obéir parce qu'on est, il a fait de nous ses amis. Et c'est ça ici que le verset essaie de dire. Hein, la preuve, on peut le voir au verset 12, une confirmation de cette interprétation qui est la bonne. Dans Jean 15, 12, Jésus dit, voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. C'est lui qui nous aime en premier. C'est son amour qui vient d'abord. Et notre obéissance, notre capacité à lui obéir, est un résultat de cet amour. Et ce matin, mon désir, c'est que ça enlève un poids de nos épaules, de « je dois obéir si je veux qu'il reste mon ami ». Je dois tout faire, je dois chaque commandement, puis oh non, j'ai ou pas manqué, puis on passe nos soirées à se repentir. C'est bien de se repentir, de reconnaître qu'on a des choses à travailler. Mais parce qu'on a peur de tout le temps être éloigné de Jésus, on se couche en disant, mais là, je veux-tu aller au ciel? Ce que Jésus dit, c'est, vous êtes mes amis, je fais de vous mes amis. Et c'est ça qui va vous emmener à m'obéir. Donc, quand on a des difficultés à obéir à ce que Dieu nous demande, la solution, c'est de s'approcher encore plus de lui. C'est d'aller puiser en lui notre force. Comme on a entendu ce matin, c'est de revenir à la croix et de dire, Seigneur, te fais de moi ton ami, aide-moi à te suivre, aide-moi à t'obéir. Son amour vient d'abord et notre obéissance est une réaction à son amour. Et encore là, hein, on l'a dit plus tôt, ce qui nous motive, ce qui motive notre obéissance, c'est l'amour. C'est son amour pour nous qui nous rend capables de l'aimer en retour, de vouloir lui plaire. Dans 1 Jean 4, 19, Jean dit, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. » Le premier. Ce qui vient en premier, c'est son amour. Et tout ce qu'on fait, c'est une réaction à cet amour-là. Et donc, le rôle du chrétien, c'est quoi? Ben, c'est toujours s'approcher de l'amour de Dieu. C'est toujours de comprendre, de dire, Seigneur, révèle-moi ton amour. Vous voulez obéir plus à Dieu? Découvrez davantage son amour. Pas juste le craindre plus, dans le sens d'avoir peur de lui. Il y a des enfants qui ont peur de leurs parents ou qui ont peur des autorités, ils ont peur de leurs enseignants. Tant que le parent est là, puis qu'il surveille, ils obéissent. Oui, papa. Mais quand les parents ne sont pas là, si c'est la crainte qui motive, puis que là, soudainement, il n'y aura pas de conséquences, ben, les enfants n'obéissent plus. Les élèves n'obéissent plus. L'enseignant sort de la classe, ça devient le chaos. Mais quand les enfants aiment, quand ce qui les motive, c'est de vouloir plaire parce qu'ils aiment, ils veulent lui faire plaisir. Mais même quand les yeux ne sont pas en train de regarder, il y a un désir d'obéissance quand même. Puis une déception lorsqu'on ne plaît pas. Hein, c'est pas juste la peur de la punition, mais c'est le désir de plaire. Et Jean va dire ça, je pense, c'est Jean, mais dans la Bible, ça va dire ça. Hein, là, il y a la crainte. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour parfait. C'est tout ce que la seule raison pour laquelle vous obéissez à Dieu, c'est parce que vous avez peur des punitions. Ça ne durera pas. Ce que la Bible nous enseigne, c'est lorsqu'on comprend l'amour de Dieu, lorsqu'on se nourrit de cet amour-là, notre désir de lui plaire va être de plus en plus grand, de plus en plus facile. Jean 15, verset 15, on continue. « Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. » Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Non seulement un ami de Jésus fait ce que Jésus commande, mais il comprend pourquoi Jésus demande cette obéissance. Hein, le verset ici, là, le mot serviteur, ça peut être aussi, c'est le mot doulos, ça peut être le mot esclave aussi. Et à l'époque, les esclaves obéissaient, les serviteurs obéissaient sans comprendre. Va faire ça. Mais le maître ne s'assoyait pas pour partager Là, j'aimerais ça que tu fasses ça parce qu'on s'en va là, puis mon plan, c'est de faire ça. Les esclaves, les serviteurs ne recevaient pas d'explication. Ils devaient obéir sans comprendre ce que leur maître faisait. Ils demeuraient dans la noirceur, hein, sans compréhension. Mais Jésus dit que les amis, eux, sont amenés à la lumière. Ils ont accès à des explications, à une possibilité de comprendre ce que le Père veut faire. Dieu ne dit jamais à ses enfants « Just do it ». Vas-y, fais-le, c'est tout. Il y a toujours des raisons. C'est toujours possible de comprendre. On n'a pas toujours tous les détails, mais on n'est jamais totalement dans le noir. Le Père nous partage ce qu'il fait. Et donc, la vie chrétienne, l'obéissance chrétienne dans ce monde, c'est enraciné, ça grandit dans la connaissance de ce que Dieu est en train de faire. Plus qu'on connaît Dieu, plus on connaît sa volonté, plus on va comprendre qui il est et ce qu'il veut, plus on va découvrir son amour passionné, plus on va lui faire confiance, plus on va l'aimer de toute notre être et vouloir lui obéir. Plus on connaît Dieu, plus on comprend, « Oh, c'est ça que tu veux, c'est ça qui est dans ton cœur, Seigneur. Seigneur, révèle-moi ton cœur. » Nous, on prie souvent, « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. » Notre prière devrait plus, « Seigneur, montre-moi ton cœur. Montre-moi ce qui te touche. » Puis aller là où Dieu veut. Et c'est pour ça que Jésus ne nous a pas laissés seuls quand il est monté au ciel. Jésus n'a pas juste donné des paroles, puis après, il est parti au ciel. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses, qui nous rappelle ce que Jésus a enseigné, qui confirme cette amitié que nous avons. Dans Jean 14, 25 et 26, juste un peu avant ce qu'on est en train de lire, Jésus dit, « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus ne nous laisse pas seuls. Il dit, les amis entendent ce que le Père dit. Jésus dit, je vous partage tout ce que j'ai appris de mon Père, mais il dit, ça va continuer. Même quand je ne serai plus là, le Saint-Esprit va continuer à vous enseigner et à vous rappeler tout ce que j'ai dit. Et on a cette assurance-là que Dieu continue d'être avec nous, de se révéler à nous. Dans la deuxième partie du verset 15, ça dit « Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il y a cette idée que le Fils nous emmène dans sa relation avec le Père. On est invité dans la maison. Quand j'étais adolescent puis que j'habitais encore chez mes parents, j'avais des amis que c'était clair qu'ils étaient toujours les bienvenus à la maison. Que je n'avais pas besoin de demander la permission. Hey, est-ce que lui peut venir? Non, on arrivait, allô! Puis il faisait un peu partie de la famille, là. Tu sais, j'avais un ami qui fouillait dans le frigo, là. Il était accueilli, il était nourri, il était même aimé. Vous avez peut-être vécu la même chose. Vous vivez peut-être la même chose avec les amis de vos enfants. Des gens qui sont, bienvenue dans la maison. Et même, il y a certains de ces enfants qui deviennent presque des membres de la famille. Il y a certains de ses amis qui n'ont pas toujours une bonne famille et pour qui la famille de leur ami devient un lieu de refuge. La famille qu'ils n'ont pas eue. Les parents qu'ils n'ont pas ou les parents aimants qu'ils n'ont pas. Et il y en a d'entre vous, ou peut-être vous avez déjà entendu des histoires de gens qui disent « Moi, chez mon ami, là, c'était là que j'étais à la maison. J'étais là tout le temps parce que je me sentais bien. C'était un modèle de ce que c'est une bonne famille. » Savez-vous quoi? C'est exactement ce que Jésus fait avec nous. Jésus nous appelle ses amis et nous emmène à la maison du Père. Il partage, nous partage tout ce que le Père lui a révélé Et plus encore, le Père nous adopte et nous appelle ses enfants. On devient enfant de Dieu. On passe, hey, les amis, viens à la maison, puis on fait partie de la famille. Quel amour! J'ai invité les musiciens. Mais en terminant, j'aimerais nous faire remarquer quelque chose de particulier dans notre relation d'amitié avec Jésus. Normalement, dans la plupart des amitiés, il y a un certain équilibre. Hein, on est ami avec quelqu'un parce que les deux s'apportent quelque chose. On donne et on reçoit. Les deux contribuent à développer l'amitié. Mais de ce qu'on peut voir dans le texte de Jean 15, c'est que notre amitié avec Jésus est très asymétrique. Elle n'est pas égale ou équilibrée. Et le verset va être à l'avant, mais je vais vous montrer certaines choses. En premièrement, c'est Jésus qui nous aime le premier. Dans le verset 12. Avant même que nous l'aimions, il nous a aimés et a agi par amour. Avant même qu'on soit ses amis, Jésus a dit, « Ah, tu es mon ami » et il a agi par amour. Il nous aime du plus grand amour. Hein, verset 13 dit qu'il a donné sa vie pour nous. On ne pourra jamais donner notre vie à Jésus de la même manière qu'il a donné sa vie pour nous. On ne pourra jamais sauver Jésus. On peut donner notre vie pour lui dans le sens qu'on le sert, mais jamais dans le sens que lui a donné sa vie pour nous. C'est asymétrique, c'est pas équilibré. Une chance. Ça serait beaucoup de pression. Troisièmement, on obéit parce qu'il nous rend capable d'obéir. Hein, verset 14, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je vous rends capable de faire ce que je commande. » Parce qu'il le fait de nous, ses amis, parce qu'il nous a libérés de notre nature pécheresse qui nous conduit à la rébellion, à la désobéissance. Quatrièmement, au verset 15, on est informé, on est enseigné. Dans cette amitié, Jésus nous enseigne ce que le Père fait et qui il est. On n'est plus dans l'ignorance. On n'est plus laissé à nous-mêmes, puis trouve ton chemin dans le noir. Jésus est là, il nous guide, il nous enseigne, il nous dirige. Encore là, je ne peux pas enseigner Jésus. Je ne peux pas lui dire les choses, « Hey, le Père voudrait que tu fasses ça. » Non, c'est juste dans un sens. Hein? Et finalement, on est accueilli dans la famille. Hein? Jésus nous conduit au Père, qui nous accueille dans sa maison. C'est une amitié très asymétrique. Mais c'est parfait comme ça. Et alors qu'on réalise tout ce qu'on reçoit en étant ami de Jésus, mais cela doit nous conduire à la seule réponse possible, de faire ce que Jésus nous demande au verset 12. Aimez les autres comme je vous ai aimé. Jésus dit, la seule chose que je veux de toi, en retour de tout ce que tu reçois, donne-la aux autres aussi. Aime comme tu as été aimé. Alors qu'on était des ennemis de Dieu, il nous a aimés, il a fait de nous ses amis. Il a tout fait pour rendre une réconciliation possible. Il nous appelle à faire la même chose. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Je lisais dernièrement des recherches qui démontrent comment que pour passer de connaissance à une amitié profonde et authentique, bien, il faut ce qu'on appelle plus ou moins la règle du 11-3-6. C'est-à-dire qu'il faut environ 11 rencontres d'au moins 3 heures dans moins de 6 mois. Que pour développer une vraie amitié profonde, en moyenne, ça prend 10 ou 11 rencontres qui durent au moins environ 3 heures dans une période moins de 6 mois. C'est-à-dire des rencontres fréquentes et assez longue pour développer de l'aisance, pour pouvoir aller plus en profondeur dans les conversations, dans un temps assez restreint. Ça, c'est pour passer de connaissance à vraiment une amitié profonde. En gros, ça prend du temps pour développer une amitié de confiance où on connaît l'autre, où on ose être vrai. Ça prend des efforts. Ça prend une régularité dans les rencontres. Une intentionnalité. Hey, je veux développer quelque chose, je vais mettre les efforts. Je vais t'appeler, hein, on se voit-tu, on fait-tu quelque chose? Je ne vais pas attendre que ça se produise tout seul. Et ça s'applique à nos relations les uns avec les autres. Hein? Si vous voulez développer des relations d'amitié avec les autres, bien, il faut passer du temps avec eux, il faut investir dans ces relations. Mais je réalisais que ça s'applique aussi à notre relation avec Dieu. Si vous voulez apprendre à mieux le connaître, si vous voulez développer une relation profonde et intime avec Dieu, c'est nécessaire de passer du temps avec lui, du temps dans sa présence, du temps dans la prière, du temps dans l'adoration, dans la parole de Dieu, du temps avec les autres chrétiens, avec les membres de la famille. Du temps à le servir, du temps à l'écouter, à entendre sa voix. Il y a un verset où Jésus dit, « Mes brebis connaissent et entendent ma voix. » Et Jésus parle dans un contexte où il y a plein de moutons, il y a plein de bergers. Puis un berger, quand il disait, hey! Les brebis qu'ils connaissent, ils s'en venaient, mais pas les autres. Parce que les brebis étaient habituées à une voix, à un berger. Puis il allait à cette voie-là, mais pas aux autres. Et quand Jésus dit « Mes brebis connaissent et entendent ma voix », il est en train de dire « Mes brebis sont habituées d'entendre ma voix ». Ça implique de passer du temps avec le berger, de l'entendre régulièrement. Vraiment connaître Jésus, ça prend du temps. Ça implique d'être intentionnel, d'être investi. Mais être l'ami de Jésus, il n'y a rien d'équivalent dans ce monde. Il n'y a rien de plus important. Amen. On termine en prière. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton amour. Merci parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés du plus grand amour. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Dieu. Tu as payé le prix de nos péchés, Seigneur, le prix de notre rébellion. Tu l'as porté à la croix, Jésus. Et maintenant, nous sommes libres, Seigneur. Seigneur, tu fais de nous tes amis. Tu nous as aimés alors que nous étions tes ennemis et tu as fait de nous tes amis, Seigneur. Merci pour cette réconciliation qui est possible avec le Père lorsqu'on vient à toi, Jésus. Merci, Seigneur, parce que maintenant qu'on est tes amis, on peut t'obéir. On peut faire ce que tu nous commandes, Seigneur. Parce que tu nous rends capables, Jésus. Merci de nous accueillir, Père. Merci de faire de nous tes enfants, de te laisser connaître par nous. Seigneur, je te prie que si il y a de ces points où c'est plus difficile, Seigneur, de nous aider à être plus près de toi, de nous aider à te connaître plus, de nous aider à découvrir ton amour, Seigneur, à découvrir à quel point tu transformes nos vies, Seigneur Dieu. Je te prie de te révéler à chaque personne ici, Seigneur Dieu. Ceux qui te connaissent ou ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, je te prie de révéler ton amour ce matin. Un renouvellement de cette vision, un renouvellement de ton amour en nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à aimer les autres, Seigneur, comme tu nous as aimés. Aide-nous à démontrer aux autres cet amour qu'on a reçu de toi, afin qu'ils puissent te connaître, Seigneur. Afin qu'ils puissent ressentir ton amour à travers nos vies, Seigneur. Aide-nous à être une église qui aime, Seigneur Dieu. qui ne regarde pas aux différences, Seigneur, mais qui accueille et qui aime, Jésus. Afin que cette ville connaisse ton amour, Jésus. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.